France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
On met le chapeau, dit-il, on endosse le manteau, on prend la pipe, c'est Maigret. Facile à dire, mais le résultat est là, un grand acteur dans la peau d'un célèbre commissaire. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Nicolas Sarkozy, que vous incarniez dans La Conquête, avait dit « Je m'étonne qu'ils aient pensé à lui pour me jouer, il a l'air tellement fragile. Oui. » Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
« L'air seulement, mais la carrure d'acteur, oui, pour incarner cette silhouette dans Maigret et Le mort amoureux, le nouveau film de Pascal Bonitzer sur nos écrans, mercredi prochain. Un film où il y a juste un mystère et des gens qui parlent. Tout l'inverse de Marty Suprême, des cascades d'action, de rebondissements menées par Timothy Chalamet. Nous avons rencontré l'auteur de ce film, Josh Safdie. Marty Suprême également sur les écrans mercredi prochain. Tandis que cette semaine verra se croiser criminel amoureux fou, SDF junkie, apprenti religieuse et vieille dame indigne. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'ai toujours fumé la pipe. Les mauvaises langues disent même que j'ai été engagé pour jouer Maigret parce que je savais fumer la pipe. Ça a beaucoup d'importance. Tenez, par exemple, un des derniers Maigret que je viens de tourner. On tournait un jour à 9h du matin, et à 10h, j'ai eu l'idée de faire le bilan, de savoir où j'en étais avec ma pipe. J'étais en train de bourrer ma 23e pipe. Je sais qu'un de mes confrères, qui fut un immense acteur et pour lequel j'ai une immense admiration, qui était Jean Gabin, était très ennuyé par la pipe. Il n'arrivait pas, par exemple, à parler ayant la pipe au bec. Or, moi, j'y arrive. De façon intelligible, je crois.
Jean Richard connaît la musique, la chanson, j'allais dire, il a incarné 88 fois Maigret à la télé avant Crémer et d'autres, cinéma, Gabin, Simon, Haribord, Depardieu, bien d'autres. Tout cela pour dire, Denis Podalydès, qu'il y avait du lourd avant vous, quand Pascal Bonitzer vous a proposé d'être son Maigret dans Maigret et le mort amoureux. Et le mort amoureux.
Oui.
Mais l'envie a dû dépasser l'appréhension, si appréhension il y eut.
Il n'y avait pas d'appréhension parce que j'étais tellement surpris, je ne m'étais jamais projeté dans un tel rôle, que l'étonnement a succédé tout de suite le désir très vif et de faire ce film avec Pascal.
Qui a eu la malice de faire le premier plan, on vous voit, mais à côté d'un type énorme,
c'est
et
vrai.
On se dit, c'est lui, Maigret, c'est pas Podalydès, c'est pas possible.
Oui, très bien. Oui, mais c'est très une belle et façon, bah oui. Et avec et oui. Beaucoup d'humour, en fait.
Voilà.
C'était qui pour vous, Maigret, avant de le jouer ?
Ah, on vient d'entendre sa voix. Au départ, c'était Jean-Richard, parce que je l'ai découvert enfant, ouais. Et qu'on regardait ça toutes les semaines sur une des trois chaînes, ouais. Et que la voix de Jean-Richard qui disait « Janvier, bourre-moi donc une bonne pipe », et qui parle de sa façon de fumer la pipe de façon un petit peu monocorde, comme ça, c'était Maigret. Et c'était la répétition presque monotone, justement, des mêmes lieux, du même ton, de la même bouffée de pipe qui finissait par nous plaire, nous hypnotiser un peu, sans doute. Donc voilà, j'ai pas dissocié Maigret de Jean-Richard pendant des années.
C'était une silhouette massive.
Alors Jean-Richard, je ne sais pas si on pouvait dire qu'il était aussi mais moins massif que Laurent Delmas.
Ou que Depardieu.
Mais plus massif que vous.
Et plus massif que moi.
Ou que Gabin.
Que Gabin ou que Michel Simon.
Oui, il était un peu enveloppé. Il était peut-être plus gros que massif, Jean-Richard. Si je ne voudrais pas...
De toute façon, il n'y a aucune description complète du commissaire Maigret dans Simon.
Voilà.
Il y a massif. Je crois qu'il y a le mot massif.
Il y a le mot massif.
Mais le reste, on ne
sait pas. C'est sur ce mot-là qu'on a bâti l'image française, peut-être, de Maigret, que s'y sont succédés des acteurs massifs.
Ouais. Alors il disait Simon, il ne faut pas que Maigret ait l'air intelligent. Il n'est pas intelligent, mais intuitif.
Oui.
Il est bovin, un peu pachydermique.
Mais c'est beau, ça.
Ben oui.
Ça, c'est, pour un acteur, c'est très... Ça lance, ça ouvre un terrain, en fait.
Alors, il y a un uniforme Maigret, hein, effectivement, le chapeau, le manteau, par parenthèse, celui de Pascal Bonizère.
On en a convenu avec Pascal. Il voulait qu'on en discute ensemble, et moi, je lui dis, si j'ai les attributs, le chapeau, la pipe, notamment... Je résoudrai le petit problème de légitimité. Voilà, on se dira, ah ben Maigret, ça va être le type qui a la pipe.
Et la femme cordon bleu.
Et la femme cordon bleu, c'est très important.
Un acteur doit savoir tout jouer.
Je sais pas ça. Il y a des choses qu'il ne peut sans doute pas jouer, ou qu'il aurait lui envie de jouer, mais finalement...
Il y a des choses, pour vous, Denis Podalydès, qui sont comme des rêves impossibles de rôle.
Par exemple, je me rappelle que quand je mettais en scène Michel Vuillermoz dans Cyrano, je me disais ça, je pourrais pas le faire. Et justement, ce qui me plaît, c'est que Michel aille là où moi je ne pourrais pas.
Pourquoi vous ne voyez pas ?
J'avais sans doute cette... Parce que j'étais fasciné par Depardieu dans le rôle, notamment, et j'y voyais plutôt une puissance vocale, une énergie, une façon d'être au monde qui n'était pas la mienne, qui était que je voyais plus cérébrale, peut-être plus intellectuelle, je sais. J'aurais adoré qu'on me le propose, qu'on me dise « Ah ben non, moi je vais faire un Cyrano avec toi ». C'était ce que souhaitait le metteur en scène Mathias Langhoff. Et là, à ce moment-là, je m'étais mis à rêver. Mais entre-temps, il y avait Michel et ça avait résolu cette question. Donc c'est pas un rôle qui fait envie comme à tout le monde, mais voilà. Et aujourd'hui, je projetterais plus la figure. Il y a Laurent Lafitte qui l'a joué. Et aujourd'hui, si j'avais à le refaire, ben, je ferais peut-être avec Benjamin Laverne. Voilà. C'est des corps. C'est parce que inconsciemment, quand même, je suis attaché à un corps et une certaine forme de puissance que je m'interdis ou que. Mais j'attends des metteurs en scène qui comblent ce. Donc je ne ferme aucune porte, parce que si j'avais dit un jour, je ne pourrais jamais le faire, peut-être que ça aurait découragé Pascal.
Donc, justement, voilà, là,
je me refuse aucun rôle a priori.
Justement, dans le film, quand la première fois vous dites « Bonjour, commissaire Maigret », il faut y croire, et il faut que nous y croyions aussi. C'est un peu comme « To be or not to be », vous voyez, c'est vraiment... il faut y croire.
C'est un sésame, il faut...
C'est ça.
Et alors, là, c'est une confiance, pour moi, c'est une confiance dans la mise en scène, parce que je crois que Maigret, c'est vraiment une question de mise en scène. Il faut que, une fois que l'acteur est choisi, il faut construire, parce que ce sont des grandes scènes d'interrogatoire, il faut créer une atmosphère, il faut créer un milieu social. Souvent, Maigret entre dans un milieu social qui n'est pas le sien, ou parfois il retrouve celui de son enfance, d'ailleurs, dans l'affaire Saint-Fiacre.
Dans l'affaire Saint-Fiacre.
Et c'est cette alchimie qui doit prendre. Et ça, c'est une question de cadre, c'est une question de distribution, il y a toute une orientation de mise en scène que l'acteur ne domine pas forcément.
Avant de le décrire plus en détail, écoutons ce premier dialogue dans Maigret et le mort amoureux qui vous expose les faits.
Le quai d'Orsay vient de m'appeler.
Les affaires étrangères.
Vous êtes brillant ce matin.
Le ministre lui-même ?
Son chef de cabinet. Il me demande d'envoyer d'urgence au quai, je cite, une personne habilitée.
Habilitée à quoi ?
Je lui ai demandé et ça l'a énervé.
Et c'est pourquoi ?
Je ne sais pas, sauf que c'est urgent. Très urgent, même. Demandez Monsieur Cromière.
C'est lui le chef de cabinet ?
Non, la personne que vous devez voir.
Cormière ?
Cromière.
Ça, c'est la première, notre avec première rencontre avec
lui. Magnifique.
C'est un génie. Je veux dire qu'il y a une distribution
exceptionnelle.
On y va là.
Très bons acteurs pour lesquels j'ai une admiration immense. Et donc, j'étais très heureux les matins où je savais que j'allais ferrailler avec Marcon, avec Anne Alvaro.
Janvier, c'est Manuel Guyot.
Oui.
Irène Jacob, votre femme. Dominique Raymond, extraordinaire princesse de Vouine. Laurent Poitrenaud, Micha Lescot.
Ben oui. Voilà.
Julia Fort dans une
série. Julia Fort,
formidable.
Voilà.
On raconte l'intrigue de ce Maigret-là. Monsieur Berthier Lagesse, donc ancien ambassadeur, a été assassiné alors que le mari de sa maîtresse depuis 50 ans, la princesse de Vouine, lui vient de mourir. Maigret enquête, confronté au mutisme suspect de la domestique, Anne Alvaro. et à ce milieu conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, des aristos cathos qui ignorent ou méprisent l'époque.
Oui.
C'était un peu le milieu versaillais dans lequel vous avez été.
Ah, il y avait...
Pas le vôtre, mais vous avez...
Pas tellement le mien, mais il y avait Versailles, un milieu nettement plus...
C'était marrant.
Oui, des gens souvent... très riche, très, mais qui cachait cette fortune, ouais. Qui n'en parlait jamais, où l'argent était une sorte de sujet tabou. Et en revanche, vis-à-vis de l'Église, une grande dévotion,
ouais.
Une présence à la messe.
Mais c'est un milieu qui n'impressionne pas Maigret, en fait.
Non, parce que Maigret, il a ça en lui, il a une espèce de plastique sociale qui rentre dans... Il peut épouser parfaitement, il a cette capacité de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas projeter immédiatement ce qui serait des préjugés,
ouais.
Et de se laisser imbiber, comme Pascal, c'est une éponge. Petit à petit, le milieu dans lequel... On a un poisson qui rentre dans un aquarium, qui va explorer les recoins, et puis qui se met à respirer, qui trouve son oxygène dans ce milieu, par ailleurs, complètement fermé.
Hypocrite, qui retient tout, qui ne dit rien.
Mais quelque chose le fascine dans l'envers social des choses, ouais. des gens. Ça, c'est, je crois qu'il en fait, peut-être même il trouve une forme de plaisir à respirer un air totalement traversé de choses mystérieuses, sombres, confinées. Et il est fasciné par le personnage d'Anne Alvaro.
Ah
bah oui. Ouais, qu'on écoutera tout à l'heure. Mais d'abord, il écoute plus qu'il ne parle, aussi.
Toujours.
Ouais.
Enfin, de ce film-là.
Oui.
Oui. Ouais, il a quelque chose du psychanalyste.
Hein. Exactement. Il ne s'explique jamais.
Non. Donc, comme on disait, c'est pas un intellectuel, il n'interprète pas, il laisse les choses naître, venir, il laisse l'autre s'exprimer, et il fait confiance au temps de l'entretien, au temps qui transforme les gens et qui les fait peu à peu, grâce à certaines questions qu'il pose, mais de manière totalement instinctive, ouais. Et qui vont les faire accéder à une forme de vérité.
Ouais.
Et une fois que ça s'est fait, lui ne juge plus, ne condamne plus. C'est pas un homme qui va mettre les menottes, c'est pas un homme qui va sortir le pistolet, c'est le regard, c'est l'écoute, c'est le cinéma, en fait. C'est vraiment une sorte... C'est pour ça que le cinéma, je pense, aime tant Simenon, ouais. Ces atmosphères-là. Puis Simenon, c'est vraiment... Il y a 8 chapitres, généralement.
Là, vous avez le livre avec vous.
Oui, je l'ai repris, parce que... moi, tous les matins, je venais sur le tournage en lisant un Maigret. Et j'en ai lu... Parce que... Honte à moi, je n'avais jamais lu ni Simenon ni Maigret avant de commencer, avant que Pascal m'appelle
sur
ce film. Ah oui.
Ah ouais.
C'était une sorte de...
Pourquoi ? Parce que ça vous semblait de la littérature
oui,
un peu de gare.
Oui, voilà, de la littérature pour cinéma, ouais. C'était pas...
Ah ouais.
Par ignorance et bêtise, voilà. Et alors, voilà. Du coup, je lisais ça, et j'étais émerveillé par ces scènes, notamment la façon dont Simenon amène le dialogue, c'est très très mystérieux, parce que ça coule de source, ouais. Et en même temps, c'est très très savant.
Ouais.
Et c'est intemporel, parce qu'il a fait une mise en scène intemporelle, Benitzer, parce que c'est pas censé se passer dans l'année où ça a été écrit, et ni maintenant, c'est entre-temps, il n'y a pas de portable, mais c'est dans...
Il y a déjà des portables, parce que lui, mais Pascal, il l'a situé en 2000, il le dit, en 2006, même si rien dans le film ne peut vous faire trouver l'année. Lui, dans sa tête, c'était 2006, donc il y a ce qui est avant et ce qui est après 2006.
Ni 2007, ni
et pour le décor, tout ça, c'était une façon de créer une ligne de partage.
Ouais.
Mais oui, parce que s'il y avait la police scientifique d'aujourd'hui, je ne sais pas si les mecs seraient très...
Ouais, là, on dira pas tout, mais ça pourrait poser problème.
Mais il a quand même introduit la police scientifique... Ouais. Pascal, dans le scénario, il a même soumis le scénario à un policier très calé sur toutes les techniques actuelles et qui lui disait « ça en 2006 c'est possible, ça c'est pas possible ». Voilà, le vocabulaire par exemple, on dit pas les douilles, dans la première version du scénario, je ramasse des douilles, et on dit non, on doit dire les enveloppes, on dit pas les balles, on dit les ogives, des choses comme ça, qui donnent... Mais Maigret détonne un peu évidemment, parce que ce que dit Pascal, ce qui est assez juste, c'est un homme du XXe siècle, au XXIe siècle, et qui rencontre des gens du
XIXe. C'est ça. C'est ça. Ouais.
Il ne court jamais.
Il a été des temps.
Il ne court jamais.
Ah, il ne court pas. Surtout, il a un certain âge, Maigret.
Oui, c'est ça.
Mais Simenon disait que c'était son Maigret préféré.
C'est vrai ?
Il a mis beaucoup de temps à l'écrire, il a eu beaucoup de mal à l'écrire,
ah bon,
mais il dit c'est mon Maigret préféré.
Ouais. On va vous écouter.
Peut-être qu'il disait ça à chaque Maigret.
Alors c'est une question qu'on peut légitimement se poser.
Pour bien.
Genre vous avez mauvais esprit, comme moi.
Je crois que vous aimez bien les scènes d'interrogatoire.
Mais regardez, chapitre 2, ah, ça commence par « À quoi pensez-vous, patron ?» Il y a ce côté Maigret qui rêve,
ouais,
qui réfléchit, il réfléchit, rêve, hume, dans le même mouvement. C'est à la fois très très concret et très spirituel. Il y a à côté Monsieur Test, il n'est qu'une tête pensante, mais qui n'est pas une tête théorique. C'est les choses le traversent, voilà, il est plus... Oh, pardon, le micro. Il est traversé par les choses.
Dans les volutes des
fumées. Oui, c'est pour ça que la pipe, moi, j'aimais bien. Oui.
En même temps, il est là quand il interroge, lui. Il est vraiment là.
C'est un limier à ce moment-là.
C'est un limier, un fin limier. On va écouter cette séquence d'interrogatoire avec donc la domestique du mort qui est jouée par Anne Alvaro.
À quelle heure l'avez-vous quitté hier soir?
Après son dîner, à 8 heures.
Après le cognac?
Non, avant.
Il n'attendait personne?
Il ne m'a rien dit.
Il a pu accueillir quelqu'un sans que vous le sachiez?
Mais je vous ai dit, une fois dans ma chambre, j'entends plus rien.
Il recevait parfois le soir?
Son neveu, surtout.
Vous voulez un verre d'eau?
J'ai pas soif.
C'est un Berthier Lagesse aussi.
Je vous demande pardon?
Non, je vous demande si ce neveu s'appelle aussi Berthier Lagesse.
Non, Mazeron.
Pourquoi s'appelle-t-il autrement?
C'est le fils de la sœur.
Elle habite où?
Elle est morte, il y a 10 ans.
Il n'a pas eu d'enfant?
Non.
Ce Mazeron est son plus proche parent?
À ma connaissance.
Vous n'avez pas voulu le prévenir? Vous ne l'avez pas prévenu?
Non.
Vous ne l'aimez pas?
Je n'ai pas à l'aimer ou ne pas l'aimer.
Vous ne s'entendez pas avec son oncle?
Je n'ai pas dit ça.
Vous s'entendez bien avec lui?
Ce ne sont pas mes affaires.
À quelle heure avez-vous quitté votre patron hier soir?
Il dîne tous les soirs à 7 heures.
Ce n'est pas ce que je vous demande.
Je vous ai déjà répondu. À 8 heures.
Grand dialogue, ça.
Incroyable. Oui, c'est, oui, Pascal tenait beaucoup à ce que le dialogue soit assez rapide, comme ça.
C'est répété longtemps.
Oui, on a fait lecture avec Anne, et puis ensuite on faisait entre nous pas mal d'italiennes, et puis Pascal reprenait, parce que une fois, quand on se lance, ces scènes sont assez longues, ça demandait effectivement une habileté, et puis entre nous, un rythme qui s'établit, ça se crée pas en 2 secondes, ça se décrète pas, enfin, il faut le trouver. Et on adorait ça aussi avec Anne, de pouvoir comme ça. Puis on entend le petit piano de l'ordinateur qui crée la musique.
Ouais. Vous dites que c'était merveilleusement épuisant à jouer.
Ouais.
C'était oui, parce que ça quel oxymore.
C'est beau.
Mais on rentrait dans le travail, donc ça nous demandait une énergie. Ouais. Dans toutes les scènes d'ailleurs, que parfois là, ces scènes on la tournait peut-être en 2 voire 3 jours, je sais pas très bien, ou en 2 jours, et puis après il y avait encore une autre. Donc moi j'avais appris tout le texte avant le tournage, de façon à ce que la mémoire ne soit jamais un problème et qu'on ne se pose que des questions de jeu, qu'on ne trafique pas à cause de... Donc ça suppose de très bien connaître aussi le texte de l'autre pour ses vitesses. Parce
duel,
que finalement, le duel naît de la vitesse de ce dialogue et de sa musicalité. J'aime bien, puis la voix d'Anne Alvaro. Oh,
c'est ce que j'allais dire.
C'est un instrument de musique.
Quand elle dit non.
Non, oui. Il y a toujours un secret immense quand elle dit quelque chose et apparaît derrière un monde. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Et puis son regard qui est à la fois hautain et traqué, c'est de jouer avec ça. Mais j'avais déjà joué avec Anne, faire ça, très beau voir, et j'avais le souvenir d'une telle complicité, d'un tel bonheur et de travail, parce qu'on avait énormément travaillé. C'est une bosseuse fatigable.
Un peu comme vous.
Oui, j'aime bien. Je crois qu'on obtient, même au cinéma, on n'obtient rien sans des séries de répétitions, qui fait que, à l'arrivée, c'est comme on reprenait au moins 4-5 fois la totalité de la scène sous divers angles, on l'a joué 50 fois cette scène. Ce qui fait qu'en fin de journée, heureusement, je ne jouais pas le soir. J'étais heureux d'en finir.
Vous avez un autre partenaire génial dans le film, c'est Laurent Poitrenaud qui joue.
Non,
mais une petite scène, mais une merveille de duo d'acteurs. C'est le fils de la princesse.
De Vuine.
De Vuine, c'est ça. À qui vous demandez son emploi du temps le fameux soir du meurtre.
Vous étiez où le soir du meurtre? Entre 22h et minuit.
Je dînais ici avec ma mère.
Seul?
Jusqu'à l'arrivée de l'abbé Gauge.
C'est qui cet abbé Gauge?
C'est son directeur de conscience. Ma mère est une vraie grenouille de bénitier. D'ailleurs, elle doit très bien s'entendre sur ce point avec Jacotte. Elles l'ont en commun. Un de ces traditionalistes qui n'ont pas digéré Vatican II. Il porte la soutane, il est vieux, je suis pas sûr qu'il soit propre. Je soupçonne des pires travers. Je comprends comment ma mère peut l'apprécier.
Il est arrivé à quelle heure?
Un peu avant 10 heures. Je suis parti un quart d'heure après.
Et vous êtes rentré direct à l'hôtel?
Oui. Enfin, je suis allé voir mes enfants et ma femme à l'hôtel pour les embrasser, parce qu'ils étaient arrivés la veille. Puis après, je suis sorti, je suis allé prendre l'air aux Champs-Élysées.
Jusqu'à minuit?
Bon, puis après tout, ça va peut-être vous paraître incongru vu les circonstances, mais chez moi, je n'ai tout, je suis trop connu pour me permettre la moindre histoire. Donc quand je viens à Paris, j'ai besoin de, comment dire, de me détendre.
Donc, aux Champs-Élysées?
On sent un plaisir à jouer. Ouais, il y a un plaisir différent au cinéma et au théâtre.
Mais là, il y a des plaisirs qui se rejoignent. En plus, c'est des acteurs qui sont rompus au théâtre.
Oui, c'est le théâtre.
Mais c'est quoi la différence? Alors, quand on a un partenaire comme ça, comme lui, comme un Alvaro, qu'est-ce qui se joue mieux, plus, différent
qui, je ne sais pas, parce que pour avoir ça aussi, ce plaisir-là, avec des acteurs qui feraient essentiellement du cinéma, mais on se connaît très bien. Je connais très bien, je connais bien Laurent. On a joué ensemble au théâtre déjà. Donc, ça va assez vite, l'harmonie, enfin, on s'harmonise, c'est des gens qui connaissent... On connaît le texte un peu de la même façon, c'est-à-dire un par cœur qui ne se connaît même plus en tant que par cœur. Enfin, c'est-à-dire que c'est une mémoire complètement incorporée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et surtout dans des dialogues où c'est un échange de répliques très très courtes, on dépend de l'autre, en fait. Et donc, on se met complètement à l'écoute de l'autre, et c'est comme si on dansait tout à fait ensemble, et un peu au-dessus du vide, comme ça, quand on se lance, il y a une espèce de trac très 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 doux, très agréable. Et là, j'entends dans sa voix, c'est comment petit à petit le personnage qu'il est en vient à être obligé, confondu, oui, d'une certaine manière. Ils sont toujours confondus et confus parce qu'ils ont un aveu. Comment vient l'aveu? Et c'est là tout le plaisir de jeu et de la petite question qui... Il suffit de dire quelquefois juste à quelle heure, c'est aux Champs-Élysées. Ah oui. Et l'autre, ça y est, il est dans les planches, là, il est acculé.
En revanche, il y a des acteurs que vous admirez aussi pour d'autres parcours, comme Vincent Lacoste, par exemple, qui sont comme ça des garçons trouvés au lycée, qui deviennent acteurs.
Grand acteur, moi,
grand
je acteur. Vincent Lacoste, je me rappelle de lui d'un monologue vraiment pas facile dans le film qu'on a fait avec Christophe Honoré. Plaire, aimer...
Et courir vite.
où il était génial. Enfin, je sentais un acteur extraordinaire qui avait construit aussi, qui avait d'ailleurs un savoir-faire et une sorte de connaissance artisanale de son travail qui faisait vraiment plaisir. Et Christophe pouvait moduler avec lui. Enfin, c'était très impressionnant. Très important. Quelquefois, il y a des jeunes acteurs. Je me rappelle de Pierre Ninet, comme ça, au théâtre. Je l'ai découvert dans un monologue d'un spectacle. Je ne sais pas si le spectacle était grandiose, mais lui, il avait reconstruit un monologue qui racontait la mise en scène française au 20e siècle, Jean Villard. Et c'était pas seulement un sketch, c'était étourdissant. Le talent pur. J'ai eu cette sensation avec... C'est des gens très jeunes qui ont en même temps une maturité, la maturité d'un acteur de 40 ans, alors qu'ils en ont 25.
Et vous, à 25, vous n'étiez pas comme ça?
Non, je n'étais pas comme ça, non.
Vous étiez comment?
Plus laborieux. Mais en fait, on peut être encombré par des tas de problèmes, par des tas de difficultés qui ne sont pas forcément... On ne sait pas le talent, c'est pas vraiment... Ça suffit pas, en tout cas, le pur talent. Mais quand vous voyez le talent pur qui n'est pas encombré par des choses de la vie, je sais pas, la timidité, une certaine des difficultés dans sa propre existence, qui fait que le talent est entravé, ça peut bloquer. Et là, je sais pas, c'était jeune Benjamin Laverne, par exemple, quelque chose qui coule de source. Et en même temps, avec un savoir-faire extraordinaire.
Maigret, Le mort amoureux de Nabonidès, ça sort mercredi prochain. Et maintenant, direction l'Amérique des années 50 avec ce jeune prodige, Marty Supreme, de Josh Safdie.
How do you live?
Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow.
And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out?
That doesn't even enter my consciousness.
Maybe it should.
Everything in my life's falling apart, but I'm gonna figure it out.
If you need any help, I could help you.
Marty Mauser, c'est Timothy Chalamet, un jeune homme issu du prolétariat juif new-yorkais, à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible, comme gagner, par exemple, les championnats du monde de ping-pong à Tokyo en 1952. Rien ne lui résiste, malgré de folles péripéties, un montage survitaminé et un acteur Chalamet qui, comme celui qu'il incarne, a mis une folle énergie à devenir ce qu'il est devenu. Chalamet, à la fois, il est, comme son personnage, à la fois horripilant, charmeur, super doué et irrésistible comme ce film, diablement réalisé par Josh Safdie, désormais sans son frère Benny, avec lequel il avait commis notamment Mad Love in New York, Good Time avec Robert Pattinson ou Uncut James. Un cinéma traversé d'anti-héros et de dérives urbaines, voici Josh Safdie, traduit par Harold Manning.
Service switches to Kletzer.
Le ping-pong, c'est finalement presque un prétexte, un beau prétexte pour évoquer ce qui traverse tous vos films finalement, des personnages faillibles et des univers interlopes. C'est ça qui vous intéresse.
Oui, j'ai toujours été toujours intéressé par les gens qui sont à la marge, par quelqu'un qui est petit, mais qui a une grande idée. Et dans ce film en particulier, l'idée pour entrer dans ce monde, c'est quelque chose que moi je connais bien, c'est quelqu'un qui a un rêve et que personne ne respecte. Et ça vous donne, ça lui donne la possibilité de rêver. Rêver d'une façon urgente, nécessaire. Votre rêve ne se réalise pas et cependant, ça n'autorise pas les autres à vous moquer, à se moquer de vous.
Cette question qui traverse le film, par quelle humiliation il faut passer pour y arriver ? Josh, justement, est-ce que vous avez déjà connu l'humiliation entre les débuts et cette interview aujourd'hui à l'hôtel Le Crayon à Paris ?
J'ai toujours ressenti une insécurité dans la vie. Et moi, je crois, mais ça vient de la façon dont j'ai été élevé. Et je me dis tout le temps que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail. J'ai le sentiment que jamais on ne sort pas des peurs que vous avez expérimentées. Et quand vous faites un débat avec un débat avec le public après le film, mais finalement vous vous retrouvez avec deux mecs dans la salle. Et c'est ça mon sentiment tout le temps. Ce sentiment de ressentir que vous êtes en train de tourner une toute petite histoire. Et quelque part, ça, ce sentiment-là, je l'utilise pour raconter des grandes histoires. C'est une façon très émotionnelle aussi, parce que ça me permet de comprendre une histoire très large d'une façon très intime.
Alors, dans vos films, il n'y a pas d'idée de victoire ou de défaite. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de vilains. En fait, tout le monde a ses raisons dans vos films.
Yeah, absolutely. I mean, we're telling stories about
tout à fait. Nous racontons des histoires sur des gens. Et il y a des gens qui sont des vilains dans le monde, mais moi, je parle d'empathie, finalement. J'ai grandi parmi des gens qui avaient plein de défauts. Et j'ai appris à apprendre à voir le meilleur dans eux. Ça m'a appris à avoir un grand sens d'empathie envers toute personne que je croise. Parce que en n'importe qui, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous ressemble et quelque chose une vie, en eux que vous allez comprendre, que vous allez, dont vous allez avoir peut-être pitié. Et c'est pas seulement mes personnages principaux. Pour tous mes personnages, la vie, c'est plus compliqué que tout est mal ou tout est bien.
Ce film, c'est comme un train fou qui ne peut pas s'arrêter, pas de répit, quitte à sortir des rails.
Je pense qu'un des principes qui organise notre travail, c'est qu'on essaie de faire des films comme pour donner l'impression qu'ils sont écrits à mesure que vous regardez le film. Il faut une urgence. Et ça ne veut pas dire que l'écriture n'est pas très importante, non. Je pense que nous avons tous les deux la même peur, la peur de faire chier les gens. Et c'est quelque chose qui nous... Je pense que c'est quelque chose de noble, de vouloir... Quelque chose de vouloir donner du spectacle aux gens. Mais c'est un peu notre pathologie. Notre grande peur, c'est que les idées finalement tombent et que tout devienne statique. Parce que la vie, elle bouge tout le temps. La vie, c'est du chaos. Et donc, dès que vous commencez à mettre un peu d'ordre dans le chaos, vous voulez cependant ne pas que ça s'arrête.
Mais d'où ça vient, cette idée, Josh, de ne pas emmerder les gens? Ça vient d'où, ça?
Non. J'ai l'impression que quand j'étais gamin, je suis devenu obsédé par l'idée d'attirer l'attention des adultes. Obsédé par cette réalité presque parallèle. J'ai commencé à inventer des histoires pour mon père, pour ma mère, pour des copines. Et quand je sentais que l'attention baissait, quand je voyais qu'il suspectait que c'était faux, eh bien, ça me donnait encore plus d'énergie. Je comprenais qu'il fallait que je redouble d'attention, de force. Et si jamais j'ajoutais des détails à cette histoire, là, il commençait à se dire, c'est peut-être vrai, peut-être que ce gamin est en train de me raconter la vérité. Et là, à ce moment-là, quand le spectateur commence à se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, gamin, c'était très intéressant. Tous les films, c'est retourner dans le feu, de raconter des histoires comme on est dans un bar et on raconte quelque chose à un inconnu. Et là, on peut voir, quand ils commencent à regarder ailleurs, on voit bien, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Et ça, c'est le pire sentiment qu'on peut éprouver dans le monde.
Josh Sabdi, l'auteur de Marty Suprême, je suis sûr que vous avez été sur l'idée de petit attirer l'attention des autres. Ça vous parle de Nipodaïdès?
Ah, totalement, oui. Je reconnais là un processus partagé avec mon frère.
Oui.
Attirer l'attention par une histoire et par une invention.
Oui.
En dominant cette invention et céder justement de la suspicion de l'autre, de naviguer là-dessus. Savoir s'il doute, ah ben je vais lui donner un détail en plus. Ou là, je suis allé trop loin, là, il n'y croit plus, comment le rattraper? Et cette façon-là, oui, c'est drôle en l'entendant, de reconnaître quelqu'un que je ne connais pas, qui m'est tout à fait de génération, de pays, de complètement étranger, de reconnaître un même mécanisme en créant de la fiction. Enfin, ouais.
Et d'ailleurs, votre frère Bruno, on a fait de la fiction de toutes ces histoires.
On a fait de la fiction, mais on construisait ça ensemble.
Ouais.
Puis on l'a toujours fait. Puis c'est toujours une manière. Beaucoup moins ensemble maintenant. On se retrouve quasiment plus pour écrire ensemble, par exemple. Mais c'est un peu. Et moi, je mets en scène en ce moment le Cid, c'est ouais. aussi la question, surtout avec une pièce très ancienne. 3-4 siècles de distance, des figures qui sont presque abstraites, Chimène, Rodrigue, qui sont-ils, quand même de retendre l'attention en ajoutant des détails, comment travailler ça, c'est-à-dire captiver.
Ne pas emmerder, comme il dit, ne pas emmerder les...
Ne pas ennuyer, mais le diable, c'est l'ennui. Peter Brook fondait sa pratique de son théâtre, qui est généreux envers le spectateur, parce que il y a aussi des artistes qui ne se posent pas la question. Ils disent, je raconte mon histoire, on verra bien.
Oui.
Eh bien non, j'ai toujours je sais que le jeune Corneille, notamment dans le... Il cherchait ça, éblouir le spectateur, le leurrer, l'embarquer. critiquer, le contredire, le faire qu'ils ne s'y attendent pas, et c'est juste à ce moment-là, c'est là où je dois donner le grand accent. Enfin bon.
Voilà, c'est les Marty Suprême, donc, de Josh Safdie, pas une minute de répit, pareil pour Maigret et le mort amoureux, les deux films sortent mercredi prochain. On se retrouve après David Byrne, T-shirt pour les sorties.
Inter. On aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer, Laurent, avec Les Dimanches de Aruda Ruiz de Azúa, son troisième film, cette cinéaste espagnole, mais le premier sorti chez nous. Le parcours d'Ainara, 17 ans, et celui de sa famille autour de sa vocation religieuse, et des projections que chacun lui renvoie, père, sœur, tante, ami, le film ne prend jamais parti pour les uns ou pour les autres, mais expose l'hypocrisie de la famille bourgeoise, mais aussi l'influence de la religion par touches subtiles, infimes, sur le doute et sur la croyance.
Oui, c'est un vrai sujet, assurément, oui. presque dossier de l'écran, tendance quand la vocation religieuse fracture la famille. Bon, la réalisatrice traite son sujet en jonglant, précisément en permanence, avec la thèse et l'antithèse. D'un côté, les réticences de la famille, de l'autre, la volonté inébranlable et forcément mystérieuse de la future nonne. Bon, alors, est-ce qu'on peut se satisfaire jusqu'au bout de la synthèse qu'opère in fine la réalisatrice par une sorte de « à chacun ses raisons », hein, bon, qui est un peu facile, à mes yeux, et du coup, ça fait décidément une crise de foi, mais un peu à bas bruit.
Hurlevent de Emerald Fennell, vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, adapté de l'unique roman d'Emily Brontë en 1847, Léo du Hurlevent. Un clip, un long clip de 2h16 et un roman vidé de sa substance, de la sulfure en toc, des scènes de sexe clichés. Vous en voulez encore ?
Pas mal.
Il y a une quinzaine de versions depuis les années 20 du roman au cinéma. Est-ce qu'il fallait ajouter cette à peu près 16e ? Je suis pas bien sûr, parce que si l'idée c'est de gommer méthodiquement l'incandescence, la fièvre, la cruauté, la figure du réprouvé, la fracture sociale qui sont contenues dans le roman de Brontë, ben c'est absolument et définitivement réussi. Le tout au seul profit d'une romance où seuls les corps se déchaînent, mais sans excès, pour ne froisser personne. Hurlevent devient alors ce qu'il n'a jamais été, une liaison croustillante.
Erkin, première réalisation, ça en revanche est un très bon film de l'acteur britannique de 29 ans. Harris Dickinson, c'est l'histoire de, à Londres, de Mike qui vit dans la rue, junkie en quête de réinsertion. À sa sortie de prison, aidé par les services sociaux, il tente de reprendre sa vie en main. Ça me rappelle ce grand film de Jerry Schatzberg qui s'appelait Panic à Needle Park. Dans sa vérité, toujours à la bonne distance, sans mélo, avec un comédien exceptionnel qui s'appelle Frank Dillon, un charme naturel, insufflant, dit le cinéaste, l'humour et la légèreté nécessaires pour éviter le stéréotype du mec agressif et instable.
Oui, alors, le titre du film, Urkin joue sur les deux sens du mot en anglais, c'est-à-dire oui. l'oursin, oui. mais aussi le garnement des rues, le gamin des rues, livré à lui-même. Bon, et Mike est effectivement les deux à la fois, il est plein de piquants, il est quand même à la dérive. Alors on pense au début qu'il s'agit juste entre guillemets, d'une sorte de récit de rédemption, comme on en a vu beaucoup, y compris dans le cinéma britannique. Mais ce qui est très passionnant, c'est que le film bifurque oui. avec la volonté de Mike de montrer ses piquants. Très régulièrement, y compris à l'égard de ceux qui veulent l'aider. Donc ça, cette note, elle est tenue jusqu'au bout, et c'est précisément ce refus, allez, on va le dire, de la bienveillance, ouais. qui fait à la fois tout le prix du personnage et du film.
Il faut l'entendre, cet acteur crier tous les matins, je me réveille avec cette sensation, comme si on me disait, non, tu ne peux pas entrer. Mais c'est du grand art, cet acteur, qui est une absolue révélation, Frank Dillon. Aucun autre choix du cinéaste coréen Park Chan-wook, cadre dans une usine de papier. Human Soo est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu'il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l'idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il va éliminer tous ses concurrents. Un film adapté du roman Le Coup Près qui avait inspiré le film de Costa Gavras. Laurent.
Oui, alors il y a deux scènes, l'une qui inaugure le film, l'autre qui la termine, qui sont les répétitions en quelque sorte, mais le temps d'un film, Park Chan-wook arrive à montrer la déshumanisation oui. du capitalisme industriel dans oui. une usine de fabrication de papier, oui. où il y a encore des gens au début, et à la fin, il n'y a plus qu'un type oui. qui fait le travail de tout le monde. Oui. Donc ça, c'est extraordinaire, c'est une oui. façon de dire les choses qui est incroyable, en quelques scènes. Entre les deux, bon, entre ces deux scènes-là, il y a effectivement la reprise du magnifique récit de Donald Westlake, qui est oui. une intelligence incroyable. À titre personnel, si je puis dire, je préfère quand même la version qu'en avait donnée Costa Gavras avec un José Garcia qui avait trouvé là, je crois, son meilleur rôle au cinéma jusqu'à présent. L'avenir nous démentira peut-être, tant mieux pour lui. Mais très franchement, la façon dont Park Chan-wook verse un peu trop, à mon goût, dans la farce et dans le burlesque, diminue un peu la force du propos. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vraie vision sociale des
choses. Moi, le pitch est tellement dingue, un type qui tue ses concurrents, que le choix du burlesque, ça me semblait le seul possible pour raconter la violence de la société. Sainte-Marie-aux-Mines, du cinéaste belge Claude Schmitz, muté à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Krab et Conrad se voient confier une nouvelle enquête, apparemment sans difficulté, la disparition d'une bague. Rodolphe Burger et Francis Sottens, c'était un duo déjà du précédent film de l'auteur qui s'appelait L'autre Lawrence.
Oui, alors c'est un duo, on connaît, et Denis Podalydès singulièrement, Rosencrantz et Guildenstern, par exemple, ou bien les Dupont-Dupont, vous connaissez aussi. Là, ici, on a deux flics qui sortent aussi un petit peu des films de Bruno Dumont, où on a ce tandem-là de policiers, ou bien encore de l'esprit striptease, mais la Belgique n'est jamais loin. On retrouve l'esprit totalement barré, effectivement, d'un autre film du metteur en scène qui s'appelait « Braqué Poitiers ». Le film assume son indolence et réclame donc notre indulgence, au moins dans sa première partie. Mais ensuite, le charme opère à fond, à l'occasion notamment d'une histoire d'amour et l'expression de cette amitié qui lie ces deux hommes, ces deux losers absolument brillants. Et c'est au final 1h26, épatante de fraîcheur et de malice.
Un documentaire Soulèvement de Thomas Lacoste, un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières d'un mouvement de résistance intergénérationnelle, une plongée au cœur des soulèvements de la Terre, Laurent.
Oui, moi je pense que si tout fonctionnait bien dans l'audiovisuel, on se dit que ce doc devrait plutôt se retrouver sur une chaîne de télé généraliste, ou une chaîne culturelle, suivez mon regard, ou une chaîne d'infos, pourquoi pas. Mais non, le système actuel semble désormais exclure ce type de reportage au long cours, et c'est bien dommage. On ira donc au cinéma pour découvrir ce collectif écologiste qui rassemble 200 000 personnes. Le réalisateur leur donne la parole, ni plus ni moins que la parole, mais le résultat est un bel hommage à l'action militante.
Ah, on a beaucoup parlé de ce film avec son réalisateur la semaine dernière, Les Voyages de Teresa de Gabriel Mascaro. Ne vous fiez pas au titre classique, non. Mais plutôt à votre envie de partir en Amazonie, etc. héroïne septuagénaire, désobéissante et ses rencontres improbables au fil de l'eau. Un homme brisé, un joueur, une vendeuse de bibles, la lave bleue d'un escargot et peut-être l'amour et la liberté au bout du chemin. Ce sont les voyages de Teresa, une réédition d'un cinéaste qu'on aimait beaucoup et qui s'est fait assassiner par son fils, c'était Rob Reiner, et ce film c'est Stand By Me.
Stand By Me, 40 ans, il y a ce film a 40 ans, l'histoire de ces quatre garçons qui font un road movie le long d'une voie de chemin de fer, c'est un très très bel adieu à l'enfance.
Un festival, Laurent.
Un festival, il faut aller à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, bien sûr, pour le festival Regard Satellite, du 13 au 22 février. On garde les yeux grands ouverts et singuliers sur le monde d'aujourd'hui, avec entre autres Annie Ernaux, Claire Simon, un hommage à Peter Watkins ou bien encore Vajda.
Et maintenant, on a un petit peu de temps pour les deux cadeaux que nous offrons à Denis Podalydès.
C'est bien.
Il nous demandait, est-ce qu'il y a encore ça existe encore les DVD? Et on était un petit peu inquiets.
Et bien on va lui prouver que oui. On va lui prouver que oui, avec notamment, je pense qu'il n'a pas eu le temps de voir ce film l'an dernier, mais c'était une des merveilles des films de 2025. Ça s'appelle Un poète, de Simon Meza Soto. C'est le génial portrait d'un poète loser, mais définitivement savoureux. Franchement, c'est une petite merveille, un petit bijou qui est presque passé trop inaperçu. Le DVD est chez Epicentre et je pense que vous allez beaucoup, beaucoup aimer comme nous ce poète-là, qui est très singulier, très particulier.
Oui, j'aime bien le titre.
Et puis, alors un film plus patrimonial, mais quel film ? Le Destin de Youssef Chahine.
Qui aurait 100 ans cette année.
Qui aurait 100 ans cette année, chez Tamaza. Et là, ben, c'est la grande figure historique d'Averroès, le philosophe andalou,
ouais.
Qui a tant fait contre l'intolérance et dont on aurait bien besoin aujourd'hui encore dans tous nos mondes modernes. Et
film super courageux
ouais. À l'époque et qui le demeure intégralement, donc c'est très bien de publier d'ailleurs ce DVD en ce moment et de revoir ou de voir ce film.
Denis Podalydès donc dans Maigret et le mort amoureux, dans Hamlet à l'Odéon jusqu'au 14 mars et comme il travaille beaucoup, à partir de 26 mars, vous mettez en scène le Cid pour le théâtre de la Porte Saint-Martin.
Voilà, avec la Comédie Française.
Ça va la vie, là.
Voilà. Oui, oui, des périodes comme ça.
Les périodes, c'est tout le temps pour vous.
Merci beaucoup, merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation, Olivier Rio à la programmation musicale, Virginie Lorda pour l'enregistrement et aux manettes ce matin, Pauline Laverdure. Merci. Au revoir.
Salut. C'était On aura tout vu sur France Inter.